Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, en direct et en public donc du Théâtre de la Crie à Marseille. Ce soir, comment se réapproprier la ville ? Marseille bouge, se transforme, investit et affiche son ambition, être l'une des métropoles capitales de la Méditerranée. Voilà ce qu'on pouvait lire dernièrement dans un article du journal La Tribune, article consacré aux bouleversements en cours et à venir pour la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, bouleversement en cours, depuis près de 20 ans, le projet Euro-Méditerranée redessine la ville à grands coups de réaménagement urbain. Bouleversement à venir, le 1er janvier prochain, sera créée la plus importante métropole de France, ex-Marseille-Provence, 1 800 000 habitants, 93% de la population des Bouches-du-Rhône. Alors, Marseille, super métropole européenne, la ville a en tout cas pu toucher ce rêve du bout des doigts en 2013 en devenant pour une année capitale européenne de la culture, mais au prix de transformations qui ont fait grincer les dents d'une partie de la population, considérant que ces changements s'opéraient non seulement sans elle, mais aussi à son détriment. Alors ce soir, dans le cadre de notre série d'émissions consacrée au régional et à la façon dont les territoires peuvent être des laboratoires, nous avons donc choisi de nous intéresser à la question de l'aménagement urbain. Comment se réapproprier la ville ? C'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en discuter. Nicolas Burlot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes documentariste. Votre film La fête est finie est sorti il y a un petit peu plus d'une semaine en salle. J'imagine qu'on peut le voir assez facilement sur Marseille. Enfin, j'imagine peut-être pas.
On peut le voir à Marseille, aux Variétés, et à Paris, aux Trois Luxembourg, à l'affiche, et après une tournée d'une trentaine de dates un peu partout en France sur des soirées uniques.
C'est un film sur la façon dont les élites marseillaises, enfin je reprends un peu les termes de votre film, réaménagent la ville sans se soucier de la vie des habitants des quartiers populaires. Je précise que vous êtes par ailleurs membre du collectif Primitivi qui a produit ce film, qui est quoi, une association socioculturelle? Ça peut résumer un petit peu ce que fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites.
Non, c'est la première fois que je l'entends qualifier comme ça. Non, on pourrait dire que c'est une télévision de rue, c'est une téloge de rue. C'est un collectif de vidéastes qui documente la ville depuis très longtemps. On fait d'habitude plutôt des films courts d'actualité politique et sociale, et là, on a fait un long métrage.
Bon, c'est beaucoup mieux défini comme ça, effectivement. Merci. Aurore Lecomte, deuxième invitée, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de l'association La Compagnie des Rêves Urbains, une association qui mène des actions pédagogiques sur l'architecture et l'urbanisme auprès des habitants, en particulier dans les territoires défavorisés. Là, je sais que j'ai juste, parce que c'est ce que j'ai lu sur votre site. Et puis, troisième invité, Florent Chiapero, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes architecte, membre du collectif ETC, c'est une association de loi 1901, qui travaille sur des expérimentations urbaines. Par exemple, le PAPOMO, qui est le Parlement Populaire Mobile, dont vous nous direz un mot, même plus qu'un mot, dans le courant de cette émission. Mais avec vous, je voudrais commencer par cette actualité importante qui s'annonce, 1er janvier 2016, donc la création de la métropole ex-Marseille-Provence, 6 intercommunalités, 92 communes, 1 800 000 habitants, 1 800 000 ça ferait beaucoup. Est-ce que pour vous, Aurore Lecomte, Marseille va sortir plus forte de ce projet ou au contraire un peu affaiblie parce que diluée dans une masse beaucoup plus importante?
Alors vous me posez la question, à quel niveau en fait?
C'est-à-dire à quel niveau, à quel titre, vous voulez dire?
Vous voulez dire, est-ce que la ville va être économiquement plus forte? Enfin, forte à quel niveau?
Plus forte dans sa capacité, peut-être justement, à vivre dans cette communauté un peu large. Est-ce qu'on dilue une ville quand on l'englobe dans un ensemble beaucoup plus vaste?
Alors, ce qui est dit depuis quelque temps, c'est que la métropole, elle existe déjà pour les habitants. C'est-à-dire que les habitants habitent déjà en dehors de Marseille et viennent travailler à Marseille, ou habitent à Aubagne, ils vont travailler à Aix-en-Provence. Donc, cette métropole, elle existe de fait déjà. Mais c'est vrai qu'administrativement, elle n'existe pas. Donc, c'est tout l'enjeu de voir comment la collectivité va se pouvoir se doter d'outils pour faciliter la vie des habitants.
Mais pour vous, ça ne va pas forcément changer grand-chose dans la vie quotidienne?
Non, je ne pense pas tout de suite. Non.
Florent Chiapero?
Non, mais je ne suis pas sûr qu'il faille la questionner en termes de c'est bien ou c'est pas bien. De toute manière, elle va être là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça re-questionne des questions des logiques de gouvernance. Donc après, rien que de poser cette question, je pense que tout le monde est apte à participer à ce débat.
Nicolas Burlot?
Je connais très mal le sujet, mais moi, je suis assez inquiet de ce changement de gouvernance, surtout, et de savoir comment sera pilotée cette métropole. Je crois que je suis pas le seul. Dans les petites villes autour de Marseille, il y a un grand mouvement qui se sentait vraiment mis en danger par cette métropole. Voilà. Donc, comment sera gouvernée cette métropole, par qui et sur quelle politique, on verra.
Surtout que ça renvoie en fait à des questions d'échelle et qu'on aurait tendance, je pense, à vouloir revenir à des échelles plus locales et que là peut-être qu'on monte à un échelon qui est encore plus dilué ou encore moins accessible.
Voilà, bah c'était bien le sens de ma question. Alors bon, puisque vous êtes un peu réticent en tout cas à sortir des frontières de Marseille, on va revenir à l'intérieur. Dans votre film, Nicolas Burlot, vous évoquez notamment un slogan d'une campagne de promotion de la politique de rénovation urbaine de Marseille. Ce slogan, c'était « Ma ville accélère ». Est-ce que vous ressentez, vous, comme Marseillais, cette accélération de la ville dans ses projets de réaménagement urbain ?
Ah ben oui, je le ressens. En tout cas, je ressens cette volonté, ce discours politique qui est mené d'aller vers une ville qui aille plus vite, qui soit plus grande, qui soit plus forte. Mais je ne sais pas si les questionnements sont vraiment faits sur quelle ville on veut faire, quoi. Enfin, j'ai l'impression que, de toute façon, c'est pas vraiment à Marseille. Moi, mon film, il parle de Marseille, mais il parle aussi de la ville aujourd'hui, comment elle se transforme. Et j'ai vraiment l'impression que les villes sont toutes dans une concurrence acharnée pour devenir des métropoles, pour faire partie d'une espèce de mégapole mondiale, mais avec des orientations qui sont pas vraiment ancrées dans la culture de la ville, dans son passé, dans son histoire. Voilà, on veut devenir des grandes villes modernes qui attirent les investisseurs, les sacro-saints investisseurs. Mais pour faire quoi, pour qui, avec quel projet politique global, un projet ultra-capitaliste.
Alors pour voir comment la ville se transforme ou est en train de se transformer, je vous propose une petite visite guidée en bus. C'est un premier extrait de votre film, Nicolas Burlot.
Donc là, on va aller faire demi-tour pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Ici, nous sortons du périmètre de l'opération d'intérêt national Euro-Méditerranée, qui est en fait une zone de 310 hectares qui s'étend du Fort Saint-Jean, côté port, en comprenant la rue de la République qui va jusqu'à la gare Saint-Charles et qui va au nord jusqu'à la tour CMA. On verra tout à l'heure que ce territoire, il a été étendu de 170 hectares par l'État l'année dernière. Ça s'appelle l'extension d'Euro-Méditerranée, mais c'est un horizon plus lointain. On appelle ça une opération d'intérêt national parce que l'État a créé cette opération pour relancer Marseille et redonner à Marseille son lustre d'antan et en faire une capitale et une métropole régionale d'envergure, chose qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années et Marseille connaissait pas mal de difficultés. La première de nos réalisations est de développer ce qu'on appelle un quartier d'affaires aujourd'hui, le quartier d'affaires de la Joliette, qui est tout autour de vous. Ce sont tous les immeubles neufs que vous voyez là, à partir de l'immeuble des Docks, qui depuis a en plus été réhabilité en un immeuble de bureaux.
Alors on était donc dans un bus avec une visite d'un des quartiers de Marseille. Aurore Lecomte, redonner à Marseille son lustre d'antan. Est-ce que pour vous, c'est un bon objectif et une bonne manière d'aborder la question du réaménagement urbain ?
En tout cas, c'est vrai que l'opération Euro-Méditerranée a été créée par l'État notamment. C'est une impulsion de l'État pour redynamiser et redonner une autre dynamique à la ville qui, il y a 20 ans, était en grande difficulté. Est-ce que c'est une bonne chose ? En tout cas, je pense qu'il fallait vraiment, il y a 20 ans, faire quelque chose pour cette ville. Et je pense qu'il faut continuer à faire des choses pour la ville. Après, avec quels objectifs les politiques veulent faire cette ville ? Effectivement, on peut s'interroger dessus. En tout cas, nous, au niveau de notre travail à la Compagnie des rêves urbains, c'est d'expliquer aux habitants quels sont les projets qui sont actuellement en cours. Alors, effectivement, on est prestataire d'Euro-Méditerranée pour faire des ateliers de découverte urbaine. Ce sont des ateliers pédagogiques pour comprendre ce qu'est l'opération Euro-Méditerranée, quels sont ses objectifs, comment la ville se développe, quel était ce territoire avant et vers quoi il évolue.
Est-ce qu'en tout cas, vous êtes tous d'accord, donc les deux autres, Florent Chiappero et Nicolas Burlot, pour dire qu'il y a 20 ans, il y avait nécessité de faire quelque chose pour cette ville. Alors, je ne sais pas si le terme « redynamiser » est un terme qui vous convient, mais en tout cas, voilà, il fallait que la ville change un peu, Florent Chiappero.
En fait, on se rend compte que c'est pas un phénomène qui est marseillais, c'est un phénomène qui est de toute manière global. On a des opérations de ce genre dans toutes les grandes villes, au moins d'Europe. Je repense à un film qu'on a projeté il y a quelques jours, là, qui s'appelait « Mainmise sur les villes » de Claire Laboré et Marc Évreux. Et qui était intéressant, c'est de se montrer que ce phénomène est valable dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes européennes.
Voilà, c'est un film qui a été projeté dans le cadre de la quinzaine Marseille en commun, ouais, c'est ça, la quinzaine qui est en cours.
Je peux vous en parler aussi, vous tombez bien. Mais juste que, ce que j'ai trouvé intéressant sur le film, c'était le débat qui s'en est suivi et se rendre compte que ces questions urbaines et d'aménagement, elles sont partagées et elles sont débattues par énormément de gens qui sont d'horizons très divers. Donc c'est pas ça doit pas se jouer à un niveau de spécialiste et que c'est quelque chose qui doit être à la portée, qui est en tout cas à la portée de tout le monde.
La question, elle était très intéressante. D'ailleurs, on aurait pu la faire nôtre ce soir. C'était à qui sont nos villes? Justement, c'était quoi la réponse ou les réponses, en tout cas, qui ont été données, Florent Capéro?
Les réponses, elles sont que c'est à qui veut bien essayer de l'apprendre, quoi. Pour revenir sur la question de la quinzaine des convergences, ça montre un climat qui existe à Marseille, qui est hyper riche, qui est hyper enthousiasmant, dans le sens où il y a énormément de gens et de structures et un milieu qui se mobilise, mais pour amener des questions assez transversales. Donc, on parle effectivement de convergence, dans le sens où tout le monde a envie de retrouver des points de contact entre chacun de chacune de ces activités.
Alors, moi, ça fait 12 ans qu'on fait des ateliers pédagogiques, on s'adresse à des habitants de tous âges sur les questions de la ville. C'est vrai que la ville intéresse tout le monde, quel que soit l'âge, quelles que soient les conditions sociales des personnes. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est facile de comprendre les enjeux, parce que la ville est complexe et il y a énormément d'acteurs qui interviennent dans la création de la ville, dans son évolution. Et autant c'est vraiment important que tout le monde s'y intéresse, et je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse, autant je pense qu'on a vraiment besoin d'expliquer à tout un chacun qui intervient, qui fait quoi dans la ville. Et pour le coup, c'est de plus en plus complexe.
Nicolas Burlot.
Ben moi, l'argument de la complexité, il me fait toujours un petit peu peur, parce que je trouve qu'en fait les choses sont relativement simples quand on les voit depuis la base. Que vous dites, est-ce qu'il fallait faire quelque chose pour cette ville? Sans doute qu'il fallait faire quelque chose pour cette ville. Le truc, c'est que pour le moment, on est dans un système capitalisme mondial avec une désindustrialisation de l'Europe. Si on reste dans les règles du jeu de ce capitalisme mondial, on arrive à ce qui se passe aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les investisseurs, c'est le capital qui fabrique les villes. C'est-à-dire que la force publique aujourd'hui ne fabrique plus la ville. Donc le bien commun, l'idée d'un bien commun, d'une ville pour tous, n'existe plus. Aujourd'hui, on donne les clés aux investisseurs. En fabriquant des projets, donc on fait un projet, Euromed fait des projets, c'est de l'urbanisme de projet, on dit voilà, on aimerait bien que le quartier soit un peu comme ça, donc on va faire des routes, des infrastructures, et puis après on va aller chercher des investisseurs. Mais les investisseurs, ils arrivent, et puis eux, ils ont un seul objectif, je veux dire, l'objectif des investisseurs, c'est de gagner de l'argent, c'est pas de faire une ville qui réponde aux attentes et qui réponde à tous, qui fabrique de la mixité sociale, qui permette aux gens de vivre ensemble. Donc ça, moi j'ai du mal à dire, est-ce qu'il fallait faire quelque chose? Sans doute, il fallait faire quelque chose.
Mais ce qui manque d'abord, pour vous, Nicolas Burlot, c'est quoi? C'est déjà au moins un travail de concertation avec la population pour savoir ce que les gens veulent. Mais à un moment donné, une fois que les gens ont exprimé ce qu'ils veulent, il faut bien passer à la phase suivante, qui est à la phase de la construction. Et ça.
Moi, le mot de concertation, il me fait un peu peur aujourd'hui, puisque la concertation, elle a été complètement vidée de son sens dès que les lois sur la concertation ont été votées. Aujourd'hui, la concertation, c'est qu'on demande aux gens s'ils veulent des feux rouges en fer ou des feux rouges peints en bleu. Mais moi, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, quand vous faites une émission qui s'appelle « Se réapproprier les villes », aujourd'hui, il n'y a pas les outils. Les outils doivent venir de la base, pour arriver à se réapproprier ces villes, c'est-à-dire à faire entendre et à imposer aux politiques et aux investisseurs quelque chose qui se soucie du bien commun, qui se soucie d'une idée de la ville, et que pour le moment ni les politiques ni surtout pas les capitalistes ne nous amèneront, quoi.
Alors Florent Capéro, c'est peut-être le moment justement de parler d'un de vos projets au collectif TC, qui est le projet Papomo, Parlement populaire mobile, une sorte de mini amphithéâtre ambulant. Là, l'idée, c'est bien justement, non pas d'amener le public dans des lieux de débat traditionnels, mais plutôt d'amener le lieu de débat vers là où le public vit, et de faire remonter les attentes de la base des citoyens.
Non, pas exactement.
J'ai pas de chance ce soir.
Non, non. On On n'est pas, je suis assez d'accord sur les questions de concertation, c'est des choses qu'on n'utilise pas ou des termes qu'on n'emploie pas. Mais ce qui nous intéresse,
mais
c'est
de voir
comment...
Mais vous utilisez quel terme? Parce que je ne vois pas très bien en quoi concertation, ça pose à ce point problème.
Non, mais c'est des questions de dialogue, c'est des questions de...
C'est pas péjoratif.
Bah, par exemple...
Dialogue, c'est... concertation, souvent, c'est quand même des thèmes assez proches, non?
Souvent, le mot concertation est employé par les aménageurs pour de la consultation. C'est-à-dire que souvent, la concertation réglementaire arrive à la fin d'un projet, quand le programme est bouclé, et du coup, il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc, c'est pas ce qu'on appelle vraiment de la concertation, qui est enrichir normalement un projet en faisant des allers-retours entre les habitants, les usagers et le maître d'ouvrage.
Bon, alors si je dis que Papomo c'est un espace de dialogue, est-ce que ça convient mieux?
Oui, non, mais ça me va. La concertation, elle est toujours dans le même sens. Moi, j'aimerais bien pouvoir concerter mes aménageurs, concerter mes élus, concerter tout le monde. En fait, c'est juste qu'elle est, elle est toujours monorientée. Donc le Papomo, c'est une espèce de gradin qui se déploie dans l'espace public, justement pour qu'il y ait des lieux de débat qui soient accessibles à tous, qui se passent dans la rue. Et il y a une chose qui nous paraît essentielle aujourd'hui, c'est de réapprendre à dialoguer les uns avec les autres et de trouver des moments d'échange. Donc c'est juste, on n'a pas inventé la poudre, c'est juste on retourne dans la rue et on discute de quel projet de société on veut ensemble.
Donc ce Papomo, il est déjà sorti à Marseille ou dans d'autres villes, et sur quel thème?
Il est la première fois qu'il est sorti, c'était à l'occasion d'une réflexion qu'il y a eu avec Pensons le matin, qui est un groupe de discussion qui se réunit régulièrement, et c'était notamment sur les éléphants blancs, enfin tous ces grands projets qui ont été lancés par la ville de Marseille en l'occurrence, et qui coûtent énormément d'argent sans qu'on en ressente l'intérêt.
Pardon, mais les éléphants blancs, qu'est-ce que c'est?
Par exemple, le stade Vélodrome, qui coûte 18 millions d'euros par an à la collectivité.
Et le Papomo, moi, j'en parle avec plaisir, parce que je l'ai vu aussi sur la plaine il y a quelques jours, quelques semaines, sur la plaine qui est une place assez connue à Marseille, sur laquelle il y a un grand marché très populaire, très mélangé, et pour laquelle la Soleam, la Société d'aménagement de Marseille, a rendu public il y a quelques semaines un projet de réaménagement de la place qui inquiète beaucoup les habitants. Bon, on peut en discuter, mais qui a...
Pour quelle raison ça les inquiète?
Parce que on y voit justement des tendances de gentrification, de faire opérer un saut qualitatif, une montée en gamme à ce marché. Donc nous, on imagine déjà un marché réduit où on vendrait plus que des savons de Marseille, etc. Et ce qui se passe à la plaine en ce moment, c'est super intéressant, parce qu'il y a une assemblée populaire qui s'est réunie, qui est en particulier célèbre pour son carnaval qui a lieu le 15 mars, qu'on voit d'ailleurs dans mon film. Mais cette assemblée populaire, alors peut-être qu'il faut réaménager cette place et qu'elle se fera, mais il y a une vraie volonté aujourd'hui qu'il y ait une discussion dans le quartier, avec les forains du marché, avec les gens qui pratiquent la plaine, avec les usagers, peut-être une espèce de maîtrise d'usage qui pourrait intervenir avant que les décisions soient prises, en fait, parce que c'est pas les politiques ou les aménageurs qui connaissent la ville, qui connaissent ses usages et qui savent quoi en faire, quoi.
Aurore Lecomte, est-ce que cette place de la Plaine, c'est un dossier sur lequel vous intervenez avec la Compagnie des Rêves Urbains?
Non, on a souhaité ne pas se positionner, on n'a pas répondu à l'appel d'offres. Parce que c'est notamment un sujet compliqué et la Compagnie des Rêves Urbains, quand elle...
Vous n'intervenez que sur des sujets pas compliqués, alors?
Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'on intervient dans une... On s'engage dans une démarche de concertation quand on pense que c'est... comment dire, c'est le bon moment de faire cette concertation. Les conditions sont réunies, les bonnes conditions sont réunies. Pour aller voir les habitants, ça vous engage énormément d'aller auprès des habitants, de parler d'un projet, de demander leur avis. Si vous pensez que les conditions sont pas réunies parce que, par exemple, il n'y a pas de marge de manœuvre, parce que c'est pas le bon moment dans le projet, que le projet est trop avancé et que vous n'aurez pas les moyens de vraiment d'enrichir le projet, dans ces cas-là, on n'y va pas. Bon, c'est pas que pour ça qu'on n'y est pas allé sur cette action-là, mais c'était des doutes qu'on pouvait avoir et du coup, on a préféré ne pas y aller.
Alors, pour avoir peut-être
un tout petit mot sur cette concertation de la Plaine, parce que c'est un exemple, puisqu'on en parlait de cette concertation. C'est un quartier où il y a beaucoup de monde, qui est avec des usages très différents. C'est un quartier de nuit aussi, où les gens viennent faire la fête. Il y a deux réunions de concertation qui sont prévues. Une le 26 novembre, dans une salle où il y a 100 personnes, où il y a 100 places, et sur laquelle il faut s'inscrire par téléphone. Comment on veut faire une ville qui prenne en compte les intérêts des usagers de cette ville en faisant deux réunions de concertation et une réunion de restitution, quoi. Donc d'ailleurs, le 26 novembre, l'Assemblée de la Plaine ira massivement à cette réunion de concertation pas pour la perturber, mais pour dire on peut pas discuter aussi peu d'un quartier qui dans lequel vivent autant de gens et sur des travaux qui engagent autant son avenir.
Florent Chiappero, avec le Pape Homo, on peut accueillir combien de personnes pour des discussions?
Là, dans sa taille actuelle, c'est une 50 ou une 60, mais ça reste ouvert. C'est un dispositif.
Une 50, une 60 de personnes assises, mais elles peuvent rester. Il peut y en avoir qui sont debout.
Oui, voilà. En fait, il y a eu une première. On l'a sorti à l'occasion de l'Assemblée de la Plaine, d'une première réunion publique, donc qui a été organisée par l'Assemblée, justement, pour amener le débat. Et je pense qu'il y avait 200 ou 300 personnes qui étaient
intéressées. Mais c'est un très bon outil. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de créer des outils pour aller au-devant des habitants. Il faut arrêter de faire de la concertation, parce qu'il existe quand même des démarches de concertation, heureusement, mais il faut arrêter de faire de la concertation en attendant que les gens viennent vers vous, parce que vous allez avoir toujours les mêmes. Enfin, tous les aménageurs ou les opérateurs de concertation font ce constat-là. On a toujours les mêmes personnes.
Alors, pour qu'on ait une petite idée, je dirais pas
qu'il faut aller au-devant des habitants.
Chaque fois que je commence à parler.
Excusez-moi, mais je dirais pas qu'il faut aller au-devant des habitants. Moi, je suis un habitant, je suis dans mon quartier.
Donc il faut attendre quoi? Que ce soit les habitants qui aillent au-devant des politiques?
Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les habitants développent des outils, fabriquent des outils, parce que ces outils n'existent pas. Et alors, si on parle de se réapproprier les villes, il faut que ces outils viennent des habitants.
J'ai un atelier de fabrication avec un certain nombre d'outils à vous faire entendre. Vous le connaissez forcément, Nicolas Burlot, et vous aussi, Aurore Lecomte, puisqu'il s'agit d'un atelier qui est animé par la compagnie des Rêves Urbains. Deuxième extrait de votre film.
Est-ce qu'on veut ouvrir vers la mer ou est-ce qu'on veut, ouvrir la ville vers la mer?
Oh non, on est déjà, de toute façon, on est forcément vers la mer.
Mais attends, est-ce qu'il y a des gens là? Il n'y a pas beaucoup, regarde la zone. Il n'y a que ça.
Oui.
Est-ce qu'on veut, dans les friches, mettre des habitations ou est-ce qu'on veut mettre
des parkings pour que les gens utilisent ou là,
bon, le compte, ce qu'on vient d'entendre, ce court extrait, est-ce que c'est si significatif du travail que vous faites avec les habitants?
Oui. On ne fait pas de grandes théories, on ne fait pas des grands discours. Quand on fait des ateliers, on utilise toujours des outils qui soient interactifs et mettre les participants en condition. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on vient d'entendre, c'est un atelier pendant lequel, je crois que c'est un atelier qui s'appelle Découverte d'Euroméditerranée, et on propose aux participants assez rapidement de se mettre en groupe de 4 à partir d'un plan, d'une vue aérienne plutôt, du quartier il y a quelques années d'Euroméditerranée. On demande, mettez-vous dans la peau d'un aménageur et définissez des objectifs pour réaménager ce quartier et voyez comment vous pouvez intervenir. Donc en tout cas, l'exercice, c'est de, à un moment donné, se mettre dans qu'est-ce que c'est être aménageur, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Et suite à cet exercice-là, on peut après faire un débriefing de voir comment Euroméditerranée, eux, les choix qu'ils ont faits, qui peuvent être discutés après par les participants, mais c'est se décentrer et essayer de comprendre ce qu'est le métier d'aménageur.
Mais ça veut dire que c'est une façon de faire comprendre aux participants à quel point c'est complexe et que donc ce qui paraît peut-être évident ou les éventuelles contestations, on les explique, on les annihile presque d'une certaine façon.
C'est expliquer les contraintes du métier d'aménageur. C'est-à-dire que quand on a le temps, on peut aller loin dans l'exercice, de dire qu'à un moment donné, prendre des décisions, par exemple, de construire une école, de construire... Ben, qui c'est qui construit une école dans la ville? C'est la mairie. Qui c'est qui, si on doit développer un équipement comme une piscine, ben, là aussi, qui c'est qui construit cet équipement public? Bon, là, en l'occurrence, c'est encore la ville. Enfin, en tout cas, de comprendre du coup, par cet exercice, qui fait quoi? Et à un moment donné, si on décide ça peut arriver de se dire, ben là, on aurait besoin de faire passer le tram. Ah, ben le tram ne passe pas, la voie n'est pas assez large. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas passer les transports en commun. On élargit, on exproprie pour faire passer le tram. Donc, c'est de se poser ces questions-là pour comprendre les mécanismes de transformation de la ville.
Alors, Florent Chiappero, vous qui êtes architecte, j'imagine que vous trouvez ça plutôt intéressant qu'on explique au public aussi quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés.
Alors, c'est vrai que chez ETC, on est une dizaine d'architectes, mais en fait, j'ai l'impression qu'on passe plus notre temps à essayer de se mettre à la place des habitants plutôt que d'amener les gens sur notre terrain. Et il y a le... Enfin, moi, je ne suis pas d'accord. Hein, je trouve ça simple, en fait, la ville. C'est juste qu'on nous l'a rendu complexe et qu'on nous a mis en place des mécanismes qui la complexifient. Moi, on peut revenir aux fondamentaux, quoi. Mais à un moment donné, c'est habiter, c'est se déplacer, c'est aller au commerce, c'est aller. Donc c'est des choses qu'on peut arriver en sortant de ces mécaniques qui sont hyper lourdes. Qui sont pas...
Nicolas Burlot, si vous avez choisi de montrer cet atelier dans votre film, c'était pour montrer à quel point justement une forme de dynamisme, ou c'était plutôt pour en dénoncer peut-être certains effets pervers?
Oui, plutôt. Je vais pas me fâcher avec Aurore, on en a discuté tout à l'heure. Elle pense que ces ateliers ils servent à informer le public, à leur donner des outils effectivement pour comprendre comment les aménageurs travaillent. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait des outils pour que les aménageurs comprennent comment les habitants vivent dans les villes. Parce qu'effectivement, moi, je suis super d'accord avec ça. La ville, c'est assez simple. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut en faire de cette ville. Et dans cet atelier qui est filmé et qui est dans le film, moi, je l'ai plutôt mis parce que derrière... Parce que d'une part, j'ai l'impression que c'est aussi une façon de graisser les rouages et donc un peu de vendre la soupe en Méditerranée. Voilà, mais surtout dans cet atelier, il y a une habitante qui arrive et qui dit mais oui, mais le quartier que vous êtes en train de fabriquer, moi je vais en partir, les impôts locaux ils vont monter. À chaque période d'impôts locaux, il y a une vague de déménagement dans le quartier. On est dans des quartiers qui se gentrifient et où mécaniquement la fabrication de cette ville exclut les populations les plus populaires et les remplace. Donc moi souvent, j'ai l'impression que réaménagement, requalification, réhabilitation, ça veut toujours dire virer les couches populaires de ces quartiers et les remplacer par des nouveaux arrivants, quoi.
Alors justement, quand vous êtes confronté à ce genre de discours, Aurore Lecomte, en quoi vos outils pédagogiques, alors je précise d'ailleurs que je vous ai demandé, vous l'avez fait gentiment, vous êtes venu avec une boîte en carton dans laquelle, j'imagine, il y a un certain nombre d'outils pédagogiques. J'aimerais bien que vous l'ouvriez, même si pour nos auditrices et nos auditeurs, ils n'iront pas grand-chose, mais on va essayer de décrire un petit peu avec quoi vous travaillez. Mais en tout cas, quand il y a ce genre de discours qui vous est opposé, d'une certaine manière, comment est-ce que vous répondez?
Non, mais ce n'est pas opposé. C'est-à-dire que nous, on donne des éléments de compréhension de la ville. Après, chacun parle de son vécu. Et les ateliers, ils sont faits pour que chacun puisse s'exprimer et qu'on puisse avoir une diversité de points de vue. Et chacun ressort en ayant entendu les points de vue des uns et des autres et se fait sa propre conviction. Nous, on ne nous oppose rien du tout. Nous, on est là pour donner une information la plus objective possible.
Alors, vous avez sorti ce qui ressemble à un plateau de jeu plié en deux, rouge. Est-ce que c'est ça? C'est un jeu de société que vous avez amené, parce que c'est la surprise aussi pour moi.
Donc c'est un jeu, effectivement, c'est un jeu de société qu'on a créé sur un quartier de Marseille qui fait partie des quartiers nord, le quartier de la Viste, puisqu'on est intervenu sur ce quartier-là pour travailler avec les habitants.
Donc le plan de jeu, c'est un plan de Marseille.
C'est un plan du quartier, c'est le cadastre du quartier de la Viste. Et il y a un espèce de parcours comme un jeu de loi sur le plateau. On avance avec des dés, on peut reculer, il y a des pièges, bon, comme un jeu de loi. Et pour avancer, il faut répondre à des questions. Et les questions, c'est des questions sur le quartier. Et les questions, elles ont été construites, enfin, elles ont été rédigées avec les enfants. On a fait des ateliers pour faire découvrir leur quartier aux enfants. Et sur des thématiques architecturales et urbanistiques, on a étudié les grands ensembles, puisqu'il y a une cité HLM qui date des années 60-70, je ne me rappelle plus. En tout cas, on a étudié le projet de l'architecte qui a construit cette cité, comprendre aussi pourquoi on a construit les grands ensembles, la crise du logement, reposer ça dans un contexte de l'époque. On a étudié l'environnement du quartier, puisque le quartier s'appelant la Viste, ce qui veut dire la vue en provençal, voir qu'est-ce qu'il y a autour, ne pas s'arrêter au quartier, et puis le parc avec sa bastide, puisque l'histoire des quartiers nord, c'est des campagnes qui ont été petit à petit urbanisées dans les années 60 quand on a construit les grands ensembles.
Bon, Florent Chiappero, ça vous donne envie d'y jouer?
Moi, je trouve ça assez simple, finalement.
C'est très simple. Non, mais sur la question de la simplicité, je pense que ça devrait être simple. Mais dans les faits, malheureusement, en tout cas, c'est un fait. Quand on assiste à des réunions, justement, de renouvellement urbain sur des projets qui sont sur ces cités des quartiers nord, il y a des projets de rénovation urbaine. Quand vous assistez à des réunions techniques, vous vous rendez compte que c'est loin d'être simple.
Je suis d'accord, mais en fait, c'est pas un phénomène qui est lié à la ville, c'est global. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous explique que faire un yaourt ou cultiver une tomate, c'est compliqué, quoi. En fait, ça reste assez simple.
Alors, Nicolas Burlot est venu avec un film pour cette émission. Aurore Lecomte est venu avec un jeu de société. Vous, Florent Chiappero, vous êtes venu avec un livre qui vient d'être publié, si j'ai bien compris.
Oui.
Coédition Collectif ETC et une école buissonnière. Ça s'appelle Le Détour de France. C'est un projet, si j'ai bien lu là aussi sur votre site, qui date de 2012, qui était sur le thème de la fabrique citoyenne de la ville. Alors, fabrique citoyenne de la ville, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ?
Alors, c'est le récit d'une année qu'on a passée. On était 12 à être partis, à faire un tour de France pendant un an.
Voilà, c'était pas uniquement sur Marseille. Hein.
Non, pas du tout. Surtout qu'on n'est pas originaire de Marseille.
Enfin, vous êtes né à Strasbourg, c'est
ETC
ça, je crois ?
s'est formé à Strasbourg. Donc on a passé un an à aller rencontrer des gens qui ont fait des pas de côté. Donc c'est une école buissonnière dans le sens où c'est que des gens qui ont une pratique qui se veut en décalage par rapport à ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et donc il y a le récit de cette aventure qui est toute la construction intellectuelle qu'on a pu avoir. Il y a des interviews de personnes qui nous ont marqués à ce moment-là. Et il y a une réflexion un peu théorique aussi par rapport au regard qu'on peut avoir sur la ville.
Mais fabrique citoyenne, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique une ville de manière citoyenne ?
En partant d'en bas et en essayant de s'organiser pour arriver à ce qu'il y ait un modèle de société qui nous corresponde en tant qu'individu. Donc ça recoupe des logiques d'autogestion, d'autonomie, ça recoupe...
Et l'autogestion, c'est d'ailleurs, je crois, le modèle sur lequel s'est développé votre collectif.
Oui, on est tous co-chefs. Voilà. Donc on travaille tous ensemble, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... on travaille, c'est notre outil de travail qu'on a voulu se réapproprier aussi à un moment donné.
Il y a une question qui, me semble-t-il, on n'a pas encore finalement posée depuis le début de l'émission. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes désormais. Je vais vous la poser notamment à vous, Nicolas Burlot. C'est que quand on fait du réaménagement urbain, on le fait pour quoi ou pour qui ? Dans votre film, alors il y a, j'ai l'impression qu'il y a deux, c'est pas des ennemis de classe, faut peut-être pas quand même exagérant, encore que si, pourquoi pas, mais enfin, on va dire, il y a la bourgeoisie, et puis alors il y a cette autre catégorie, que sont les touristes. J'ai l'impression aussi que vous avez une vision de la ville de Marseille qui sera, attention, notre ville va être envahie par les touristes. Est-ce que j'ai surinterprété votre propos ? Est-ce qu'une ville qui veut bouger, c'est pas aussi une ville qui est un petit peu attractive, y compris pour ceux qui n'y habitent pas ?
Si, non, moi j'ai absolument pas peur que la ville soit envahie pour les touristes, j'ai peur qu'on fabrique la ville pour les touristes, qu'on fabrique une fausse ville qui n'existe pas pour qu'elle soit agréable à regarder, comme on a fait à Barcelone, qu'on a pratiquement vidé de son essence et de son identité en fabriquant un espèce de décor de Barcelone que viennent voir les touristes. Mais moi j'habite dans cette ville, j'y vis, j'ai envie de continuer à y vivre. Et pour revenir un tout petit peu sur ce que disait Flo... moi, j'ai l'impression que c'est pas de côté. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils ont étudié et ce qui se passe à l'Assemblée de la Plaine aujourd'hui. C'est pas des petits exemples anecdotiques et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment quelque chose qui est en train de se renouer. Peut-être aussi avec une façon de penser qui vient de choses de l'internet ou j'en sais rien, mais en tout cas des mouvements qui viennent de la base, qui viennent des habitants et qui se disent qu'ils peuvent faire des choses. Il y a un très bon dossier dans le CQFD que je vous engage à acheter de ce mois-ci de 15 pages sur l'Espagne où des mouvements basistes d'assemblées de quartiers hors Podemos puisque Podemos n'était pas présenté au municipal mais ont quand même pris la ville de Barcelone et la ville de Madrid. Donc que vont être en mesure de faire des collectifs comme ça qui viennent vraiment, je veux dire, il y a des anciens squatteurs à la mairie de Madrid, à la mairie de Barcelone aujourd'hui. Il y a vraiment un mouvement de fond. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça qui est en train de se passer à Marseille. Moi je sens des choses que j'avais jamais senties dans cette ville, dans une coordination d'énergie qui viennent de la rue et qui essayent de fabriquer la ville en la faisant.
Est-ce que Aurore Lecomte et Florent Chiappero sentent la même chose, Aurore Lecomte ?
Alors, je pense que la ville de Marseille, elle est rebelle. La ville de Marseille, elle réagit pas toujours comme on pense que les aménageurs, par exemple, aimeraient qu'elle réagisse.
A contrario, ça serait quoi une ville qui serait pas rebelle en France ?
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de l'opposition, comme dit Nicolas, il y a de l'opposition au projet, il y a des
résistances. Je pense que chaque, si on faisait cette émission dans n'importe quelle autre ville en France, on pourrait aussi dire voilà, qu'on est dans une ville rebelle, non ?
Non, je pense que Marseille est quand même particulière.
Ça, voilà, on a bien des Marseillais autour de la table.
Non,
hein.
Il y a un esprit, a pas de doute. Non, vraiment.
Moi, je crois que c'est généralement. Je crois que ça pourrait être comme ça dans toutes les villes.
Mais... Ça peut partir, mais en tout cas, ici, il y a une résistance, il y a une façon de vivre qui est... pas la même qu'ailleurs.
C'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué, finalement, les projets d'aménagement urbain, non ?
Oui, c'est aussi pour ça. Je pense que les projets d'aménagement urbain sont plus compliqués à Marseille qu'ailleurs. Enfin, ça a l'air partagé comme constat. Et sur la question de la ville, c'est pas parce qu'il y a des alors par rapport au tourisme, par rapport à des projets d'aménagement comme par exemple l'Euroméditerranée, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qu'il en est finalement réellement. Est-ce qu'il y a eu vraiment une gentrification? Je suis pas une spécialiste de la question, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que la gentrification ne se fait pas aussi massivement qu'elle était peut-être souhaitée par certains. Et il y a quand même des Marseille reste une ville populaire, vraiment populaire, et on n'est pas sur, comme d'autres exemples, comme Bordeaux ou autre ville, où on a un centre-ville qui s'est complètement métamorphosé. On n'en est pas du tout là.
Florent Capéro.
Non, je me disais juste qu'on avait, on a eu dans les années 60-70 des gens qui avaient des visions globales de la société et qui voulaient, qui attendaient le grand soir pour tout changer. Et qu'ensuite, dans les années, je sais pas, 80, il y a eu une espèce de spécialisation dans des secteurs. Donc, il y a des gens qui sont intéressés à l'agriculture, il y a des gens qui sont intéressés à l'énergie, il y a eu aux questions du logement, tout ça. Et on a eu on a aujourd'hui des gens qui sont hyper compétents, dans plein de milieux différents et sur des sujets très variés. Et aujourd'hui, là, on a l'impression que cette logique de convergence, elle a lieu et qu'il manque très peu de choses pour que tout s'articule et qu'on réussisse à reconstruire un projet global. Mais ça se joue à pas grand-chose, à mon avis, puisque des initiatives, il y en a partout. Et à Marseille, il y a effectivement une ambiance un peu particulière, je trouve, en ce moment. Mais après...
Je suis d'accord avec souvent à Marseille, il y a des pointes d'énergie, comme ça, de dynamique sociale à l'échelle des quartiers, sur un sujet particulier... La solidarité avec les migrants ou des choses d'assemblée populaire ou ce carnaval, mais avec des points qui sont très très précis et qui se parlent pas, qui arrivent même pas à se parler avec les autres. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont en train de se coordonner, qui se sentent en résonance avec les autres, en fait. Et voilà, moi je trouve ça assez nouveau.
Vous évoquiez, Florent Capéro, la période des années 60-70. Si on remonte un tout petit peu avant, il y a eu aussi des projets utopiques, non pas si utopiques que ça, puisqu'ils ont été réalisés. Mais c'est vrai que nous, quand on a pensé aménagement urbain, architecture, on vient à Marseille, on a forcément pensé à la cité radieuse du Corbusier, qui a été construite entre 1947 et 1952. Ça, j'ai quand même vérifié les dates. Est-ce que c'est encore un lieu important aujourd'hui pour les Marseillais? Et est-ce qu'on peut dire que sur la durée, c'est un projet réussi d'aménagement urbain concerté avec ceux qui y vivent, Aurore Lecomte? Ou bien est-ce que c'est, aujourd'hui, on est un peu dans le musée avec cette cité radieuse?
Alors, cité radieuse, elle vit, mais elle vit par contre avec des... il n'y a pas de mixité sociale dans la cité radieuse. C'est les bourgeois qui ont investi la cité radieuse, ce qui n'est pas le cas dans toutes les cités radieuses en France, comme à Rosay, près de Lille.
C'était pas l'objectif de départ.
Hein. C'était pas l'objectif de départ. Les gens qui vivent à Cité Radieuse ne veulent pas en partir et sont très attachés. Il y a une vraie vie sociale à l'intérieur de la Cité Radieuse. Par contre, pour beaucoup de Marseillais, ils passent devant cet immeuble sans y être entrés, en se disant mais pourquoi on fait tout un foin autour de cet immeuble qui de l'extérieur est assez, enfin ressemble à un grand ensemble et qui est du coup assez. Qui donne pas envie. Et du coup, il y a quand même une méconnaissance de cet immeuble.
Je peux pas croire, Florent Capéro, que vous n'y êtes jamais entré, vous qui êtes architecte quand même.
Non, j'y suis allé plusieurs fois. C'est intéressant, architecturalement parlant. Après, par exemple, son insertion urbaine, elle est questionnable aujourd'hui, où on a un grand parking à son pied. Il n'y a pas forcément de vie qui s'y passe. Mais après, le Corbusier a eu quand même une œuvre assez importante. Et il y a quelques projets qui sont particulièrement intéressants.
Sauf erreur de ma part, on ne la voit pas, la cité radieuse, dans La fête est finie, Nicolas Burlo?
Non, parce que moi, je suis plutôt dans l'hypercentre ou au nord de Marseille, qui est très, très séparé sociologiquement. Et du coup, le sud, j'y vais moins. C'est vrai, j'y vais moins. Mais j'aurais, moi, bien aimé qu'il y ait des cités radieuses, plein de cités radieuses dans les quartiers nord de Marseille. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on fabrique des maisons pour les pauvres, quoi? Est-ce qu'on fabrique des maisons pour que les gens puissent habiter dedans, ou est-ce qu'on laisse les privés fabriquer des maisons dans lesquelles il n'y aura que des riches qui pourront venir habiter, quoi?
Ouais, c'est une question qui est présente tout au long de votre film, donc, dont je rappelle le titre, La fête est finie. Il faut regarder évidemment sur Internet pour savoir où est-ce qu'on peut voir votre film, Nicolas Burlo. Merci beaucoup à tous les trois, Florent Capéro et Aurore Lecomte, d'avoir participé à cette discussion. Vous savez, la campagne des régionales va nous conduire bientôt à Strasbourg. Ce sera vendredi prochain, mais c'est pas terminé s'agissant de Marseille, puisque demain, dans l'atelier du pouvoir sur France Culture, toujours à 12h50, Vincent Martigny et Thomas Vider poseront la question suivante. peut-on gouverner Marseille ? Voilà, je voudrais également remercier toutes les équipes du Théâtre de la Criée et des Rencontres d'Averroès pour leur accueil. Merci aussi aux équipes de France Culture, Roland Dandalex, chargé de production, la prise de son, Étienne Leroy, Patrice Klein, Gilles Manet, émission réalisée par Doria Zénine, l'équipe du Grain, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer, Bathilde Barbier et Nafsika Papanikolaou. On se retrouve lundi à 18h20 pour De Grain à Moudre avec le sujet suivant, dopage, la France lave-t-elle plus blanc que blanc ?